Ta vie en ce moment, c'est de voir beaucoup de spectacles quand même.
Ah oui, je pense que depuis l'ouverture, j'ai dû en voir, je sais pas, 1000-1500 quoi.
Ah ouais?
Ah ouais.
Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Barbouchy, musique Dominique Hamel.
Thomas Debré, improvisateur et fondateur du Café Théâtre L'Improvidence à Lyon et bientôt Bordeaux et bientôt Paris. Mmh.
Depuis l'ouverture, il y a beaucoup de types de spectacles différents. Mmh. Et les spectacles qui m'ont fait vraiment waouh, c'est les spectacles slow par exemple.
Ouais.
Avec Mathieu Loss et Marco Mayer et Matt Carlson. Enfin, c'était vraiment au début de l'improvidence. Tu vois, il n'y avait pas les murs, c'était encore des vitrines. Donc, ils jouaient sur scène, ils ouvraient la porte, ils allaient jouer un jeu d'ombre derrière.
Ah ouais?
Tout en organique. Ensuite, il y a eu des spectacles style de comédie musicale super bluffant. Et il y a eu des clowns qui étaient aussi super intéressants de voir des clowns sur scène. Et ensuite, des spectacles type bio qui jouent un peu à.
Ça, c'est les E.
Ça, c'est les E.
Ouais.
Qui jouent un peu à la méthode Improv Boston, sur laquelle il y a des édits de scène qui vont ultra vite.
Ouais.
Et du coup, ça donne un spectacle très, très dynamique, très rythmé, qui sont vraiment bluffants. Et ensuite, des spectacles type tandem, avec Patrick Spadry et Nicolas Tondreau, qui sont. Où là tu vois qu'il y a une écriture puissante, oui, entre guillemets, de Patrick Spadry, qui est mis en couleur par Nicolas Tondreau, plus dans la physicalité.
Ouais, j'ai vu à Impulser.
Ouais.
Puis il y a aussi le fait qu'ils acceptent que ce qui apparaît au fur et à mesure, c'est ça leur histoire, et puis tu les vois faire... Ben, tu les vois pas parce qu'ils sont très bons, mais de faire le deuil de ce qu'ils avaient en tête quelques secondes auparavant parce que c'est plus ça qui existe à ce
moment-là. Oui, ben c'est ça. C'est tous ces spectacles qui jouent sur l'ultra-présent, l'instant T, et de dire, ben, on découvre l'histoire en même temps que vous, on fait que la révéler. Et puis les spectacles un peu plus récents, type Persona, De la compagnie des Parvenus, qui sont des spectacles sur lesquels il y a une grosse scénographie, une grosse mise en scène, et qui donnent un côté un peu théâtral.
Ouais.
Parce que ce sont aussi des gens qui sont issus du milieu du théâtre, donc ils ont une culture de la mise en scène qui...
Ça rentre ici?
Et, ouais, ça rentre ici. En fait, on enlève le premier rang, donc on agrandit la scène. Qui sont des nouveaux spectacles, et puis à mon avis des spectacles qui vont durer très longtemps quoi.
Ouais.
Ces offres qui sortent des formats cabaret où c'est des scènes un peu courtes, où c'est un peu, il y a que le décorum qui change. Mais bio tandem, parce que j'appelle le BTP.
Le BTP.
Ouais, le bio tandem persona, qui sont la gros, tu vois, des maçons qui sont des constructeurs d'édifices artistiques. Puissant et fort quoi, enfin avec des messages artistiques clairs sur lesquels on va traiter d'une morale, on va éduquer le public sur la thématique du jour, le public qui sort un petit peu chamboulé entre guillemets, il a une relation avec père, avec son fils, et dire, ah, je crois que c'est ce que je suis en train de vivre à la maison. Donc, tu vois, ça touche le public d'une façon
catharsis.
Donc ça, c'est un peu les nouveaux spectacles depuis 2 ans qui cartonnent au niveau du public.
Ouais. Ah non, mais c'est bien aussi là, de sortir de... Ben, en fait, sortir du tour de magie.
Oui.
De faire regarder, j'ai pas de texte et je vais m'en sortir. Tu fais non, mais je veux dire, c'est correct, là. On l'a vu, le tour. Maintenant, fais-moi ton spectacle.
Oui.
J'ai pas besoin de voir les prouesses ou quoi que ce soit. Je veux me faire emporter. Je veux vivre quelque chose.
Ouais, je veux vivre une expérience. Et c'est vraiment ça. Ou même la Lily, quand il joue Fedo, en fait, ça démarre quand le public rentre à l'accueil.
Mm-hmm.
Parce qu'ils sont déjà là, en costume. Ils accueillent le public comme on accueillait le public à l'époque de Fedo, avec un registre de jeu qui est selon les codes de Fedo de l'époque, de la comédie de boulevard et tout ça, qui sont, ouais, qui sont impressionnants. Il y a un travail énorme derrière.
Ouais,
il y a un autre spectacle aussi qui sont la compagnie de la morsure de Rennes, qui eux travaillent énormément hein, les spectacles immersifs.
Ouais.
Enfin, ils ont joué un spectacle qui s'appelle Le Banquet, un banquet de mariage.
Tu vois, j'ai entendu parler, oui.
Une centaine de personnes, 10 tables de 10 personnes, il y a un comédien à chaque table, et ça démarre sur, il y a un des comédiens que le public ne connaît pas, qui va faire une déclaration d'amour à la future mariée.
Ouais.
Et comment va réagir le public.
Le reste, ouais. C'est immersif, ça, quand même. Mais c'est ça, puis la beauté de la chose, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que, bon, le théâtre conventionnel, on travaille très longtemps pour essayer d'être juste, mais en improvisation, en théâtre d'improvisation, des fois, on arrive à une justesse qui nous épate nous-mêmes parce que c'est tellement sur le moment, c'est tellement vrai, sans que ça soit prémédité.
Mais parce qu'en fait, on est dans la réaction, on est dans l'instant T, dans le react and response.
Ouais.
Sur le... Et ce qui fait que je pense, parce que c'est une réaction qui est aussi une réaction émotionnelle, qui est le fait que ton personnage, il soit. Tu vois, ça te fait quoi? Tu réagis sur l'instant. Ouais. Et donc, du coup, je pense que ça encourage encore plus le fait d'être dans la sincérité de jeu.
Ouais. Puis, à toi, bon, t'as fondé l'Improvidence, bientôt l'Improvidence Bordeaux, oui. L'Improvidence Paris,
oui.
L'Improvidence Tokyo, non?
Inch'Allah.
mais à la base, là, l'idée, t'es parti d'où?
À la base, j'étais en train d'écrire un livre,
ouais.
sur l'impro. Une des inspirations pour écrire un livre, c'était le livre Process de Michael Gelman.
Ouais.
Ensuite, j'ai voulu rencontrer Michael Gelman pour lui demander de traduire son livre, etc. Et j'ai fait des cours avec lui à Chicago. Et à Chicago, j'ai vu qu'il y avait une trentaine de théâtres qui proposent de l'impro. Donc, j'ai suivi beaucoup de cours là-bas. Et en échangeant avec, entre autres, Rachel Mason, que je voulais interviewer pour mon livre, elle me dit, mais Second City, parce qu'elle est directrice de Second City sur le programme de formation. Elle m'a dit que Second City a essayé à plusieurs reprises d'ouvrir une branche en Europe, en Autriche ou en France, et ils n'ont jamais pu pour X raisons. Et elle me dit, mais il faut le faire.
Ouais.
Il faut le faire, il faut que tu sois le premier à le faire, c'est évident. Et donc du coup, c'est un peu la marraine, entre guillemets, de l'improvidence, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur les recettes, de qu'est-ce qui fait que ça marche à Second City, qu'on essaie de reproduire. Et quand je suis arrivé, en fait, à Lyon, c'est deux fois plus petit que Chicago. Il n'y avait pas de théâtre dédié à l'impro, enfin, il n'y en avait pas en France.
Ouais.
Et donc, l'idée, elle est venue de là. J'en ai parlé au réseau de tous mes potes improvisateurs. Et puis, le retour était très vite. Ben oui, bien sûr qu'on en rêve, quoi.
Puis, tu as des contacts avec les autres salles qui existent dans le monde
Pas trop, en fait. Avec Chicago, oui, parce que j'ai pris les cours et donc du coup je connais un peu. Mais les autres salles d'impro, non.
Mais ils te connaissent? T'as reçu un peu un petit coucou
Oui, alors de temps en temps j'ai un petit coucou, mais ça reste, tu vois, des échanges de politesse. Ouais. Je pense que la prochaine étape, c'est que moi je me déplace, que je les rencontre, d'échanger ensemble, d'imaginer des choses ensemble. En mode de tournée, par exemple. Il pourrait y avoir. Moi, ce que je rêve, c'est d'avoir plusieurs.
D'avoir un réseau.
Un réseau de salles de théâtre sur lesquelles, tu vois, on fait venir Donteur et on dit deux jours à Lyon, deux jours à Bordeaux, deux jours à Paris, etc. La com est la même, on a tout, on package un peu tout ça.
Mm-hmm.
Et on puisse. Du coup, ça va permettre d'accueillir des grands spectacles, même dans des petites salles, parce qu'on propose, je sais pas, 10 dates d'un coup, quoi.
Oui, c'est effectivement.
Donc, l'idée, c'est ça. Et puis, il y a de la place.
Ouais.
Il y a de la place, et je pense pas qu'il faut viser que des très grandes villes.
Non.
En France, il y a des villes de 200-300 000 habitants qui ont des structures culturelles énormes.
Ouais.
Qui sont ultra sous-utilisées.
Ah oui. Puis comment pour la programmation, tu je sais pas, t'as une direction, qu'est-ce que
Ouais, alors pour la programmation, j'ai plusieurs axes. La première, c'est de répondre aux cinq types de publics qu'on peut avoir. Public famille, un public enfant, un public de théâtreux, etc. Et puis ensuite, d'avoir dans l'offre de programmation une variété qui soit cohérente, des spectacles rythmés, dynamiques, punch, jusqu'aux spectacles un peu contemporains, expérimentaux. Tu vois, je pense à Tempo de Amadeus Rocket,
ouais.
Ces spectacles-là. Bien sûr, on a un cœur de programmation qui sont des spectacles qu'on a régulièrement, qui pour moi mettent bien en valeur l'improvisation. Mm-hmm. La mission de l'improvidence, c'est de rendre visible et accessible l'improvisation. Donc de la rendre visible en ayant plein d'offres de spectacles différents. Et nous, notre métier, c'est de proposer ces spectacles au public qui est éduqué, qui est capable d'apprécier ce spectacle.
Ouais, c'est un beau travail.
D'aller chercher des gens du théâtre pour aller voir du Fedo, d'aller chercher des familles pour aller voir tel type de spectacle, d'aller chercher des étudiants, des couples. Enfin, à chaque horaire, chaque jour, il y a vraiment un public particulier, quoi.
Puis toi, de voir tous ces spectacles-là, ben, je sais pas, moi, je me dis, je programme une salle, je vois plein de spectacles. C'est sûr qu'à chaque fois que je vois un spectacle, je fais « qu'est-ce que je ferais moi de cette façon-là? » Parce que tu joues aussi.
Ah oui, bien sûr, oui.
Donc, ça t'aiguille ou ça te mêle ou ça...
Il y a un peu les deux. Alors, du coup, quand moi, je joue des spectacles qui répondent à mes envies d'improvisateur du moment, qui sont aujourd'hui principalement du duo, dans du situationnel, relations, etc., d'être ultra dans l'instant présent. Et puis à la fin d'essayer d'avoir une morale ou d'éduquer le public sur quelque chose, ça c'est mon axe personnel, artistique. Et ensuite, quand je travaille avec les troupes, sur des débriefs, des choses comme ça, j'essaye de leur apporter le regard sale.
Ouais.
Pas forcément un regard artistique, mais un regard sale de dire, tu vois, il y a plusieurs étapes dans le spectateur. Il y a le spectateur qui ne connaît pas, qui est les bras croisés, qui regarde et qui dit « vas-y, fais ton truc ». Ensuite, il se dit « ah oui, c'est vraiment improvisé parce que ça, il n'a pas pu le prévoir ». Donc, il commence à être dans l'empathie, ça, c'est l'étape 2. Ensuite, tu vas traiter une scène relationnelle d'un patron qui est en train de licencier quelqu'un et puis il se dit « ça peut se toucher ». Donc là, il est plutôt en mode par procuration de dire « ah, mais si moi, je faisais ça dans mon boulot, est-ce que ça se passerait comme ça ?» Et la quatrième étape, c'est l'étape de moralisation, de dire « voilà, on a fait un spectacle, la morale de ce spectacle ou de cette thématique qu'on a traitée, c'est ça, un peu comme le théâtre.
Ouais.
Le théâtre, souvent, c'est une pièce qui traite d'un thème et à la fin, il y a une morale pour le public. Et pour moi, c'est aussi une mission de la culture d'éduquer ou d'aborder des sujets qui peuvent être parfois tabous, qui peuvent être parfois délicats. Personnellement, la dernière fois, ils ont traité d'un quelqu'un qui allait partir, s'engager en Syrie. C'est des sujets d'actualité, etc.
Ouais.
Mais pour moi, la culture a cette mission-là. D'aborder tous les sujets, de faire grandir les sociétés, de faire grandir les organisations, de faire réfléchir, d'accepter les différences, enfin, tu vois.
Ouais.
Et donc je peux avoir un travail pour leur dire attends, le pacing de votre spectacle, il y a peut-être quelque chose à revoir sur le rythme, sur le jeu, un peu trop de storytelling, pensez aussi à compenser avec ça.
Puis toi, mais t'as commencé où?
Moi, j'ai commencé à High Company, qui est une troupe lyonnaise. Ma première prof, celle qui est à l'origine de tout ça, c'est Julie Doyel.
Ah oui?
Que j'ai eu en stage pendant un week-end. On était une douzaine pendant un week-end, stage découverte. Et à la fin, on est allé manger à la Brasserie Georges, tous ensemble. Et je revenais pas du ressenti que j'avais de dire, tiens, j'ai l'impression que ces gens avec qui j'ai fait un stage, c'est des amis d'enfance, quoi.
Ouais.
J'ai l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps. Et ensuite, j'ai pris des cours. Et ensuite, j'ai eu, entre autres, Mathieu Loss, qui, le premier, m'a parlé des livres. Donc, j'ai commencé à lire des bouquins sur l'impro. Et qui m'a parlé aussi de Second City, I.O. et tout ça. Et donc, je suis parti là-bas. Et donc, voilà, un peu mes origines, c'est compagnie. Et puis ensuite, j'ai créé des troupes. J'étais dans pas mal de troupes. Je jouais beaucoup.
Moi, je me rappelle t'avoir croisé, je pense, à l'espace Gerson un soir. Ça devait être après un catch ou je sais pas.
Oui, il y a aussi
Spontaneous.
Oui, où tu avais fait dans un bar à deux avec, je crois, Olivier Dubois, il me semble.
Peut-être.
Je sais plus quel bar c'était. Tu sais, les shows qui sont avec un manche debout, là, une table haute.
Ouais.
Vous êtes debout. Je sais plus si c'était à la migraine ou quoi.
Ah, peut-être à la migraine, ouais. Je me rappelle y avoir joué, mais, mais c'est loin. Là,
ah oui, c'était... c'était...
J'ai la chance de revenir quand même régulièrement à Lyon, donc, mais la faune change.
Ah oui, oui, mais en 5 ans, ça a changé extraordinairement. En 5 ans, il y a... avant, les troupes, c'était un théâtre, une troupe. Mm. Les troupes ne se parlaient pas vraiment entre elles. Chacun était un peu dans son précaré. Aujourd'hui, tout le monde se rencontre. Tous les pros, ils veulent jouer avec les pros. Nous, on leur donne des horaires, des cartes blanches. Vas-y, tu veux jouer Mathieu Lotz, il a rencontré Selena Hernandez ici, quoi.
Ok.
Qui, pour moi, sont un peu deux mentors, tu vois, de Lyon. Et ça, ils n'avaient jamais joué ensemble, je dis.
C'est une mission accomplie.
Bah ouais, donc ça, j'ai provoqué des rencontres où...
Tu peux le dire, hein, on va l'enregistrer, là. C'est grâce à toi.
ouais, mais j'adore ça en fait. Moi, c'est un kiff. Alors, ça surprend les gens, mais moi, j'adore que les improvisateurs se rencontrent. Parce que pour moi, c'est ça l'impro, cette notion de partage, de rencontre, d'échange. De Patrick Spadry, il a rencontré ici Anaël, il a rencontré aussi Selena, ils ont fait des duos. Enfin, il y a eu énormément de pros qui se sont rencontrés.
Ben, hier soir, on a fait rencontrer un Bordelais à trois Lyonnais.
Ouais, voilà.
On va voir ce que ça donne. Je sais pas s'ils vont se revoir.
Mais moi, je trouve ça super de permettre ça.
Nous, on aime bien, justement, tu sais, on vient à deux parce que c'est économique. Mmh. Mais, je veux dire, arriver à deux, un comédien, un musicien, puis utiliser, c'est un grand mot, jouer avec des gens de la place, il y a toujours quelque chose, une rencontre que, évidemment, qu'on a. C'est différent de quand tu joues 8 semaines en file avec le même monde où tu t'atteins des trucs que tu ne pouvais pas avant. Mais en même temps, la rencontre est vraiment forte, est vraiment riche. Mmh. Là, ici, il y en a beaucoup.
Oui. Alors, il y en a beaucoup. Et puis aussi, ici, on ne peut pas faire de match, tu vois. Là, c'est trop petite. Mais ce que j'aime bien dans le match, c'est la rencontre. Et ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de provoquer des rencontres sans forcément le faire à travers un format match. Et ça peut être aussi bien des formats courts que des formats longs, que tout ce qu'on peut imaginer.
Mais d'ailleurs, c'est parce que la scène ne le permet pas que vous ne voulez pas faire un match ou c'est un choix
C'est un choix artistique dès le début. C'est un choix artistique dès le début sur le fait de dire il y avait déjà du match, mais on sent que... Il y a des formats qui ont besoin d'être accompagnés en impro. Et puis, c'est aussi tout ce que j'ai vu, en fait, beaucoup aux États-Unis. Ouais. Et où il n'y a plus du tout de match, tu vois.
Non, mais on n'y en a pas.
Ouais. Et je me dis, il n'y a pas de raison, quoi.
Il ne faudrait pas le représenter parce que...
Peut-être que ça marcherait.
Non, mais moi, je me disais... Je me suis déjà dit, il faudrait que la LNI présente ça au Canada anglais. Déjà, ça pourrait...
Ouais.
Ça pourrait les intéresser, mais peu importe. Est-ce qu'il y a, selon toi, l'équivalent du match dans le réseau anglophone? Je veux dire, le concept qui éclipse un peu...
Je le connais pas.
J'entends beaucoup parler du Harold, mais sinon...
Oui, c'est ça, de tout ce qui est... Non, moi je ne connais pas en tout cas. Je sais qu'il y a eu quelques essais de format un peu compétition, etc.
Pas nécessairement compétition, mais le format comme que les gens. Le go-to format, en fait. Ouais. Je ne sais pas. En anglais.
En anglais, c'est vraiment le Harold.
Ah oui, c'est ça.
Chicago, je ne sais pas dire le pourcentage, mais à mon avis, c'est de l'ordre de 30%.
Ah ouais, OK.
Où la base, c'est du Harold, qui est une succession de games et de scènes, avec toujours une scène d'ouverture qui peut varier. Alors, soit c'est une scène d'ouverture en, en équipe avec 10 personnes, soit c'est une scène d'ouverture avec un monologuiste, et du coup c'est un Armando, parce que c'est Armando Diaz qui l'a fait. Mais le format de jeu, il est souvent, c'est souvent du Harold sur lequel le public il va avoir plein de scènes, et le public se fait son film. C'est lui, c'est le public, tu vois, c'est vraiment la différence pour moi entre la France et les États-Unis. En France, j'aime bien dire qu'on est un peu dans, avec mes mots, hein, dans du storytelling. Ouais. Le public, on va lui raconter une histoire. Et il va voyager à travers l'histoire qu'il reçoit. Et dans les formats américains, c'est plutôt un patchwork de scènes.
Ouais.
Et d'une scène A au scène B, c'est le public qui fait le lien en disant « Ah, il s'est passé, donc il s'est passé ça.
Ouais, » ouais, ouais.
Et le public s'approprie un petit peu l'histoire. Il est davantage immergé dans l'histoire.
Ah, c'est peut-être là que je suis un peu américain, moi.
Et, ouais. Et quand tu sors du spectacle, il se peut que deux, trois, que les publics n'aient pas la même version de l'histoire parce que chacun s'est fait sa propre histoire.
Non, ça, j'aime ça de l'impro. Le fait que des fois on termine avant la fin, puis la fin on la laisse au public. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais est-ce que t'as vu des shows, des spectacles japonais?
Non.
Est-ce que mais ailleurs dans le monde, des choses qu'on aurait
non,
pas
j'ai
pu
vu,
voir
des...
nous communs des mortels?
Ouais, non, j'ai pas vu de spectacle japonais ou comme ça, j'ai plutôt vu des spectacles qu'on n'a pas nous ici, qui sont tu vois, des spectacles silencieux, qui sont de speechless, in silence. La troupe qui s'appelle de Milan, qui travaille énormément sur les spectacles d'impro, mais sans parole, juste de la réaction, sans surjeu.
Ouais.
Ça c'est ce que nous on n'a pas ici en France. Il y a quelques bribes mais c'est pas aussi abouti que ce qu'ils font Felipe Daniel en Colombie, ce que fait Fabrizio à Milan, etc.
Mais dans les pays plus près de la France, as-tu vu des spectacles en allemand, de l'Espagne,
Ouais, j'en ai vu. Oui, j'en ai vu en Espagne parce qu'on a fait un festival là-bas, en allemand aussi. Mais rien qui était qui sortait vraiment. On a vu des improvisateurs slovènes.
Ok.
Où le format était un peu drôle. On parlera à Mathulos, où en fait c'était trois improvisateurs qui étaient derrière un ordinateur et Skype entre eux.
Ok.
Et tout l'impro était en fait sur Skype avec un écran qui projetait le Skype et tu suivais un peu l'histoire à travers les échanges de Skype.
Ah, c'est drôle.
Donc c'était assez particulier et original comme format. Ça n'a pas trop marché. Hein, mais,
ouais, il faut essayer des choses.
Ouais, mais il faut essayer des choses.
Ouais, ouais. Ouais, j'avais déjà eu une idée comme ça de faire un spectacle où, un peu Talking Heads ou ben c'était pas Skype mais projeter des têtes qui se répondent.
Moi je pense que j'aimerais bien, je pense que ça va se faire, tu vois, des spectacles avec deux scènes. On en parlait avec Patrick Spadry de dire tiens on fait scène ici, nous on est tout équipé en vidéoprojecteur ici, on peut projeter via une caméra ce qui se passe à Bruxelles par exemple. Et puis, je ne sais pas comment, mais tu vois, le fait de jouer ensemble, d'avoir une scène ici que les autres voient, et puis ensuite, quand les autres jouent, nous, on le voit sur l'écran.
Vous nous appellerez, on essaiera chez nous aussi.
Mais ouais, ça peut être drôle, quoi. De faire ça en direct.
Je ne sais pas si le lagging, le petit moment peut jouer contre nous, mais il faut essayer.
Mais pourquoi pas? D'avoir une scène, une histoire qui se fait ici, une histoire qui se fait là-bas. Puis en fait, il y a un petit lien entre les deux qui se fait à travers la caméra. Je sais pas.
Puis qu'est-ce qui reste à faire à l'improvidence ou à l'impro en général?
Bon, il reste énormément à faire. Ouais. Il reste à la rendre encore plus visible, il reste à la faire rentrer dans du théâtre, il reste à la faire reconnaître.
On parle beaucoup de ça, légitimiser, rendre. Pas légitimiser, mais professionnaliser, pas être l'enfant pauvre
Je pense que déjà, c'est un travail à faire sur nous.
Ouais.
Parce que l'improvisateur en premier dit je ne suis pas un théâtreux. Si, je pense que l'improvisateur, il faut qu'il soit fier de sa performance, il faut qu'il soit fier de ce qu'il fait. et pas rougir, et puis si on n'est pas dans le même registre qu'une comédie de boulevard qui est écrite. Je pense que ça, c'est une première étape nécessaire. Et la deuxième, c'est qu'on puisse rentrer dans des théâtres. Mais ça se fait parce que, tu vois, nous, à Providence, on commence à être sollicités par des théâtres qui m'appellent et qui me disent « Moi, je voudrais faire de l'impro, mais je voudrais que ce soit toi qui fasses ma programmation. »
Ok.
Parce que forcément, on a un grand catalogue, on a beaucoup de contacts. Ouais. Et puis, en fonction du public, de la salle, on s'est dit « Ok, ce sera plutôt du contemporain ou plutôt de la famille, du spectacle famille qui te
font. » C'est vraiment les sommeliers de l'impro.
Donc, j'aime bien cette expression, c'est chouette, ouais. Ouais, c'est ça, de savoir quelle est la couleur, quelle est l'histoire, quelle est... On commence à avoir des petites touches, tu vois, en 2017. Et je pense qu'en 2019, 2020, on aura réellement des spectacles qui seront dans plein de salles. On aura des spectacles qu'on produira dans des festivals. On va créer des festivals dans des villes. L'idée, c'est qu'on puisse aussi avoir des packages festivals. On va dans une ville, on leur dit vous avez une salle. Nous, on vous propose... 8 artistes et ils jouent 4 fois ou 5 fois, ils donnent encore un petit cours à vos habitants et on dynamise un petit peu, on anime votre ville. Et...
Puis dans 10, 15 ans, est-ce que l'improvidence est encore ici ou c'est...
Écoute, c'est un peu comme I.O. ou Anion Theatre. Ils ont été très longtemps là où ils sont, ils ont déménagé, ça a été compliqué. Ils ont eu aujourd'hui un lieu fabuleux. Mais c'est difficile pour le, tu vois, de déménager ici. Il y a une âme, c'est l'ancien garage de l'immeuble que tu vois. Donc ça, je pense que ça restera toujours. Je pense qu'il y en aura d'autres, peut-être plus grands, où je pense qu'on ira régulièrement dans des grandes salles, etc. Et puis peut-être qu'ici ce sera un grand bureau, je ne sais pas, qui va gérer toute la logistique de tous les autres salles, peut-être.
Ou le spécial intimiste. Ouais. Ouais. J'entends Dominique qui ronfle. Puis toi, ça revient à chaque podcast. T'as les moyens de tes ambitions, t'as du budget à plus finir. Qu'est-ce que tu produis?
Je produis quelque chose à la télé.
Ah oui?
Ah oui. Oui, oui. Ben, c'est clair.
Plus
je produis...
Devant public, pas devant public.
Ouais, devant un public, mais quelque chose qui puisse être télévisuel, qui puisse être, je sais pas, sur une chaîne YouTube ou sur une chaîne privée, peu importe.
Les diffuseurs, ils sont frileux.
Donc, mais ils sont frileux comme les salles aujourd'hui sont frileuses.
Ouais.
Et aujourd'hui, je sens que... On nous appelle pour dire, tiens, propose-moi un spectacle, etc. Elles sont frileuses parce qu'elles ne connaissent pas la qualité et la stabilité du spectacle.
Complètement.
Nous, on le voit, on le sait, on a les chiffres, on sait dire que ça, les retours sont exceptionnels là-dessus. Tu n'as aucun risque à prendre ça. Et l'étape d'après, c'est, ça doit être la télé ou peut-être le cinéma, j'en sais rien. D'imaginer qu'il y a une scène qui soit en longue forme et qu'il y a une captation vidéo en direct et hop, tu te retrouves ça sur grand écran, un peu comme Second City. Second City, ils ont des spectacles d'impro, il y a les scénaristes qui sont au premier rang, qui écoutent la réaction publique en disant « Ah, ils ont rigolé sur ça ». Ils le notent, ils disent « C'est quoi la punchline, etc. ». Le lendemain, ils le mettent en scène, ils réécrivent les dialogues. Et du coup, ils en font des spectacles d'une heure et demie, ils partent en tournée pendant... un an et demi avec une équipe de 6 comédiens.
Ouais, ça c'est... les Américains font beaucoup ça.
Ouais. Le comedy-based improv.
Ouais.
Moi, si j'ai un budget limité, je pense que c'est ce que j'ai envie de faire. Parce que là, on peut avoir que 100 ou 200 personnes chaque soir. Et si on passe, tu vois, à la télé, il y a des spectacles qui sont waouh dans une belle salle, etc. L'impro va rattraper... un petit peu le retard qu'ils ont sur le théâtre.
Puis tu y vas dans le long form, dans le...
Dans tout. Là, pour le coup, dès le moment où c'est pro, ça, si c'est du short form, ça doit être du très bon short form. Peut-être un peu comme le Who's Line, parce qu'il faudra du rire, etc.
Ouais.
Et puis si on a demain une chaîne qui s'appelle Improvidence, il y aura du short form, il y aura du
Est-ce qu'il va y avoir une chaîne Improvidence?
Ouais, dans 15 ans, à budget limité, il y aurait ça, ouais.
Ah ouais, ouais, ok, ouais, je comprends.
Ouais. Ben là, on a une chaîne YouTube, tu vois, on filme les spectacles pour les donner aux artistes. Quand tu veux revoir ton spectacle, ouais, tu peux le revoir. Mais l'idée, c'est qu'on puisse trouver quelque chose pour faire des captations vidéo en direct avec des budgets cohérents et qu'on puisse diffuser ça. Moi, il y a certains spectacles, quand je les mets en streaming sur Twitter, on voit les connexions qui sont des gens de Chicago qui se connectent pour aller voir ces spectacles-là.
Ouais, c'est cool ça.
Donc il faut le rendre visible. Plus on va le rendre visible, plus ça va donner aux gens de venir. Et comme tu vois un clip sur YouTube, tu dis, tiens, cet artiste-là, je veux le voir en vrai, quoi.
Bah oui. Je regardais où on était rendu. On a bien parlé.
Ouais. Donc, ouais, l'avenir, c'est pour moi des. Continuer à créer, continuer à éduquer le public sur l'impro, à éduquer le milieu des théâtres sur la discipline de l'impro, leur faire aimer ça, filmer, diffuser.
Et qui t'a pas programmé, que t'aimerais programmer programmer encore, ouais.
En France, je sais pas vraiment, parce qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de gens. Après, ce serait pour moi plutôt des spectacles. Des spectacles étrangers, tu as TGNF par exemple.
Oui, ok.
Chicago, Shakespeare.
C'est ça, on se retourne plutôt vers les anglos.
Ouais, du Baby Wants Candy, du Showstopper de Londres, Improv Boston, et puis des Japonais, pourquoi pas, je les connais pas.
Non, mais ça, dans ce cas-là, de qui as-tu entendu parler mais que tu n'as jamais vu encore? Parce que j'imagine, c'est ça, il y a des choses là, que toi, en une programmation, tu as une ouverture plus grande que la plupart des gens en improvisation, parce que tu cherches, tu
grattes. Parce que je suis, ouais.
Puis t'as entendu parler des trucs que tu fais, ça, faudrait que je vois ça un jour, parce que je savais pas que ça existait.
En spectacle, je pense que ce serait le speechless dont j'entends beaucoup parler, Showstopper, ça c'est sûr. En comédien, c'est. En comédien, il y en a plein dont j'entends parler, que j'ai pas eu, que j'ai pas vu, etc. Après, bon, il y a toute la panoplie des stars québécois, entre guillemets, parce qu'on les suit sur YouTube, donc on les voit, on les visualise assez facilement. Ça, là, j'aimerais bien, par exemple, avoir un band de la LNI, mais pas forcément sur un format match, sur autre chose.
Faudrait que tu fasses venir la LNI s'attaque au classique.
Oui, par exemple.
Ouais, ouais, ouais.
Ah bah oui, carrément.
Je vais leur en parler.
Bah oui. Bah oui, mais bien sûr. Ça, sur. Ouais, j'aimerais bien aussi avoir un vrai Theater Sport.
Ouais.
Mais je connais pas vraiment une troupe qui le joue régulièrement à la façon Johnston.
Moi, j'en ai jamais vu. Je pense que j'en ai vu à la télé, mais c'était jeunesse. Je trouvais ça. J'étais perdu parce que je comprenais pas à l'époque c'était quoi.
Ouais. Voilà. Moi, j'aimerais bien voir en fait des spectacles qui ont été soit créés par Johnston ou Del Close, etc., mais dans la. Tu as du waouh.
Ouais.
Des troupes un peu waouh sur des spectacles. Del Close, il travaille un spectacle pendant un an avec ses élèves avant de le jouer en salle, quoi. Ça, c'est pas le cas, en tout cas à Lyon, c'est pas le cas, quoi.
Non.
ça, c'est moi, ce que je reproche aux troupes, c'est de dire, putain, vous avez un spectacle qui est hyper intéressant, continuez à le travailler, parce qu'il faut 2 ans, tu vois, 3 ans pour l'installer, et puis après, t'es parti pour 10 ans. Et l'improvisateur, il est tellement dans un mode de découvrir, de créer, etc. Il crée un spectacle. 6 mois après, il change.
Ouais.
Et toute la com, l'énergie que t'as mis, il faut repartir à zéro.
C'est parce qu'on est accro au rendu, quand dans le fond, il faut se rendre accro au processus.
Ouais, exactement. Ouais. Ben ouais, et puis après, tu vois ce que fait Bio avec les E.
Ouais.
Ils font ça depuis un certain nombre d'années. Le spectacle, il tourne, ils ont fait 1000 représentations. Et ils commencent à rentrer des nouveaux comédiens, ils transfèrent un peu l'ADN. S'il y en a un ou deux qui veut, ouais, qui dit, ok, moi ça fait 10 ans, j'arrête, je me consacre à un autre projet, le produit bio va rester.
Ouais.
Et le produit bio, il mérite encore 10 ans ou 15 ans, tu vois. Et ça, je trouve ça intelligent. Et j'aimerais que,
ouais,
ce soit un spectacle, une troupe, et qu'un comédien, il se dise, bah, moi pendant 3 ans, je veux jouer ce spectacle, donc je joue à cette troupe. Puis après, je vais voir ailleurs si j'ai envie, quoi.
Ouais, c'est pas facile. Moi, je l'ai eu 15 ans avec Saint-Place où on, ouais, jouait ensemble, on était soudés, puis ben après, les vies changent.
Ben oui, bien sûr.
Mais oui, transférer, ça se fait aussi. Il faut le faire. Mm. Mais ben je te le souhaite.
Tu seras mon premier interviewé quand j'aurai ma chaîne télé.
All right, parfait.
Tu feras la opening ceremony.
J'embarque.
OK, cool. Merci beaucoup.
Merci, Thomas.
Est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.